Bonsoir à tous, bonsoir Karine Thuil. D'abord un grand merci à la librairie Mola de nous accueillir pour échanger un moment autour de votre roman, L'insouciance, paru donc chez Gallimard. Peut-être dire, Karine Thuil, que c'est déjà votre 10e roman. J'ai lu quelque part que vous disiez que vous n'étiez pas quelqu'un qui écrivait rapidement. Alors, qu'est-ce que ce serait si vous écriviez rapidement? Vous avez, je crois, commencé à écrire pendant vos études de droit, puisque vous êtes donc diplômée de droit de la communication et des sciences de l'information. La plupart de vos livres se sont immédiatement retrouvés sur des listes de prix prestigieux dès votre second roman qui s'appelait donc Interdit. Et certains de vos livres ont été, enfin un de vos livres a été adapté pour la scène, pour le théâtre, et je crois que votre avant-dernier roman est en train d'être adapté pour le cinéma. Alors je ne sais pas, peut-être que vous nous donnerez une indication sur quand ça va sortir pour qu'on puisse aller voir donc l'invention de nos vies au cinéma. Mais en attendant, on est donc là pour parler de l'insouciance, peut-être des problèmes qu'a l'insouciance aujourd'hui. Et en fait, moi, je voudrais commencer par une confidence. Je pense que quand on rentre dans votre livre, je vous avoue que moi, tout de suite, j'ai commencé à fureter, à traquer. On commence par se demander un peu si c'est un roman à clé, parce qu'on a l'impression de reconnaître vaguement certains protagonistes, vous jouez un petit peu avec certains noms, vous ne cachez pas, je crois, que le livre peut se situer sous la présidence d'un chef d'État qui fait du jogging et qui tient notamment un discours à Dakar, donc on a quand même un petit peu une petite idée de où ça se situe. Et puis finalement, on arrête complètement de se poser cette question-là parce qu'on est complètement happé par la narration, par le récit, qui tourne donc en fait autour de trois voix masculines, de trois protagonistes masculins. Il y a évidemment des femmes dans votre roman, mais disons que la narration alterne entre trois personnages masculins. D'une part, un lieutenant de l'armée française, Romain Roller. Alors évidemment, on peut penser à Romain Rolland. Moi, j'ai immédiatement pensé à l'écrivain qui est connu pour son engagement pacifiste pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième personnage, c'est François Velly, un PDG, 10e fortune de France. Le troisième personnage, donc Osman Dibula, un proche conseiller du président. Et je me demandais d'une part, peut-être pour rentrer dans le roman, ce qui vous avait incité à distribuer comme ça les voix et à faire de ce roman d'entrée de jeu un roman polyphonique.
Alors d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier la librairie Mola de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici devant vous et d'avoir l'occasion de vous parler de mon travail. D'abord un mot peut-être sur l'idée du roman à clé. C'est pas du tout un roman à clé, en tout cas je l'ai pas écrit comme tel, mais je voulais que le livre se passe en, disons, 2008-2009 pour une raison très simple, c'est que j'avais été très marquée par l'embuscade d'Usbin en 2008 au cours de laquelle 10 soldats français avaient trouvé la mort en Afghanistan, assassinés par les talibans. C'était un événement qui m'avait bouleversé, qui m'avait marqué. Il me semblait qu'on s'intéressait peu au sort de nos soldats en France, contrairement aux États-Unis, par exemple. Et j'ai eu envie de raconter les effets intimes de la guerre, de m'intéresser plus précisément au sort d'un lieutenant de l'armée française qui serait revenu dévasté d'une mission en Afghanistan. Et pour des raisons de crédibilité, de contexte politique et chronologique, je devais donc le placer ces années-là. Et effectivement, Nicolas Sarkozy était président de la République, mais je crois que dans le livre, il n'y a pas, pour ceux qui attendraient des détails, des anecdotes croustillantes, il n'y en a pas. Simplement, voilà, il y a un contexte qui est dû encore une fois à la date. Il y a effectivement un conseiller, un épisode avec un conseiller du président qui pourrait faire penser à Patrick Buisson, Et on a beaucoup comparé le personnage principal du livre, François Vély, à Xavier Niel, simplement parce qu'il y a une référence au Minitel Rose. Mais en fait, c'est aussi l'enjeu d'un roman, c'est à la fois de s'inspirer d'éléments du réel, de personnalités même existantes, ou de parcours, de trajectoires personnelles et professionnelles qui peuvent nourrir des personnages de roman. Mais pour moi, ça n'en fait pas nécessairement... un roman à clé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le réel, pour beaucoup d'écrivains, dont j'aime le travail d'ailleurs, je pense à des gens comme Carrère ou là, dans cette rentrée, à Yvan Jablonka, se nourrissent du réel, parfois de manière très, très précise, très, très proche. Et puis, alors, pourquoi ce roman polyphonique? Ben d'abord, j'aime bien l'idée de raconter la société, les grands enjeux de la société, dans un roman ample qui emporterait le lecteur, donc à la fois ce désir de divertir, hein, parce que je crois que la lecture peut aussi être un divertissement, mais aussi la littérature, c'est aussi un lieu du questionnement, le questionnement politique, morale, philosophique. Et l'idée de raconter une histoire ample avec des personnages qui viendraient de milieux et d'univers radicalement opposés, hein, comme vous l'avez dit, l'univers de l'armée, le monde des affaires et le monde politique, m'intéressait. C'était un vrai défi. Et c'est vrai que quand on se consacre, comme c'est mon cas, 3 ans à un projet littéraire, il faut avoir une matière intéressante, une matière passionnante. Et j'avais dans ces différents univers, que je connaissais mal d'ailleurs, hein, pour lesquels j'ai dû mener une véritable enquête, un intérêt tel qui m'a menée à raconter leurs histoires.
Alors moi, ce qui m'a passionnée, outre effectivement le fait d'être entraînée dans ce récit, je pense que peut-être que parfois la littérature française oublie qu'on peut raconter de grandes histoires où il y a vraiment des personnages qui sont campés, enfin des romans un peu à l'américaine, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire où vraiment une histoire a le temps de se déployer. Quand je parlais de romans polyphoniques, aussi, ce qui m'avait frappé, c'est que du coup, le récit était porté par 3 personnages masculins. Et c'est vrai que je me demandais comment vous aviez fait pour... parce qu'on y croit complètement. Donc, comment est-ce que vous aviez fait pour réussir à rentrer dans... à toucher juste au niveau des portraits masculins qui étaient donnés, de la vie intérieure qui était quand même révélée de ces personnages-là.
Bah, pour nourrir mes personnages, j'aime être au plus près d'une certaine vérité, d'une certaine réalité. Et j'ai rencontré des militaires, des personnalités du monde économique, des conseillers et des plumes du président qui n'était plus d'ailleurs au pouvoir. J'ai rencontré aussi des grands patrons, puisque j'ai eu la chance pendant 3 ans d'écrire des portraits de personnalités du monde économique pour Enjeux des Échos. Et ça, c'est vrai que ça a été une matière passionnante, intéressante. Et il me semble d'ailleurs que pour nourrir les dialogues, pour nourrir la description des personnages, au-delà des recherches, au-delà de l'imagination, la rencontre avec l'autre est déterminante. Alors, c'est une façon de travailler que j'avais déjà amorcée avec l'un de mes précédents romans que vous avez peut-être lu, qui était Douce France, dont l'action se passait dans un centre de rétention administrative. Et pour écrire ce roman, j'avais passé du temps avec des clandestins, j'avais pu discuter avec certains d'entre eux. Et il me semble que voilà, quand on a l'ambition de raconter le monde dans lequel on vit, d'embrasser cette complexité-là et de raconter la société, c'est important, je crois, de la nourrir de détails, hein, parfois des petits détails, mais des détails vrais.
Alors, peut-être juste pour parler un tout petit peu quand même de plus en détail de ces personnages. En fait, quand on les rencontre au début du livre, donc on a vraiment les chapitres qui alternent, chacun son tour a droit à son chapitre et fait ainsi avancer l'histoire. On a en quelque sorte 2 des 3 personnages qui sont, on va dire, sur une pente plutôt descendante, puisque, donc, vous le disiez tout à l'heure, le lieutenant Romain Roller revient donc d'une mission en Afghanistan où ils ont été pris en embuscade avec ces hommes. Il a perdu certains de ces hommes. Certains sont rentrés lourdement blessés, handicapés. Vous posez d'ailleurs la question de la culpabilité que peut ressentir dans un cas comme ça celui qui revient, entre guillemets, apparemment intact, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc Romain Roller revient, il est travaillé par ce qu'il a vécu là-bas, par sa culpabilité. Et puis on a donc Osman Dibula, qui était proche conseiller du président et qui se retrouve limogé par le président, puisqu'il a donc osé répondre au nouveau conseiller du président qui l'attaquait sur ses origines africaines. Et puis le troisième personnage, donc François Velli, lui, certes, est en train de se remettre d'un drame personnel, puisque son ex-épouse s'est suicidée, mais on a quand même l'impression que, en apparence, professionnellement, tout va bien pour lui. Et en fait, ces trajectoires vont peut-être un peu, on va dire, s'inverser. En tout cas, on a l'impression que les trois vont se retrouver à mener une espèce de guerre personnelle. Et j'ai été très frappée par cette réflexion qu'il y a autour de la guerre, certes la guerre militaire, mais de la guerre que chacun mène finalement au quotidien.
Oui, ce qui m'intéressait, c'était de saisir tous ces personnages au moment de la chute. J'aime les personnages préférés sont les anti-héros, c'est ces gens évidemment qu'on ne remarque pas. Je les saisis dès le début du roman. Ils sont dans une situation difficile, que ce soit Romain qui a perdu plusieurs de ses hommes au cours de cette embuscade, Haussmann qui est évincé du pouvoir hein, du jour au lendemain, et François qui va être impliqué lui dans un scandale. À l'échelle internationale. Et c'est vrai que c'est ce moment de la chute qui les rend touchants, qui les rend intéressants, qui leur donne une certaine épaisseur aussi.
Peut-être aussi parce que c'est le moment où tout d'un coup le voile des apparences se déchire aussi. On a l'impression que cette question de l'apparence, de ce qui brille et de l'image qu'on tente de donner et qui à un moment donné va forcément se heurter au réel est quelque chose qui vous passionne
Oui, c'est vrai.
particulièrement.
C'est un sujet que j'ai souvent abordé, notamment à travers la question du mensonge social, de ces gens qui construisent leur vie sur un mensonge. C'était le sujet du précédent, l'invention de nos vies. C'est un sujet assez intéressant dans la mesure où, pour moi, l'écrivain est aussi cet observateur de la société qui va relever, qui va noter ce que d'autres ne remarqueront pas. Donc, ce sont ces vies parallèles, ce sont ces vies cachées, ce sont ces zones d'ombre, ces ambiguïtés. J'aime bien quand mes personnages évoluent au cours du livre. On ne sait jamais si ce sont des personnages positifs, négatifs, bons, mauvais, loyaux ou non. On les voit tour à tour évoluer au fil du livre, se trahir, s'aimer, se conquérir, chuter, rebondir. Et c'est ce mouvement, hein, littéralement, hein, ce mouvement des personnages qui est intéressant, qui d'abord raconte la vie, hein, notre vie, notre société, et puis qui permet à un livre de trouver son souffle, de trouver son rythme. Et pour revenir à la question de la chute, au départ, le point de départ du livre, c'était de raconter un livre sur l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe dans une vie au moment où l'épreuve survient, l'épreuve quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un deuil, un chagrin d'amour, un échec professionnel. Et cette épreuve marque ce moment toujours très douloureux dans une vie qui est la fin de l'insouciance, la fin de l'innocence, ce moment où on prend conscience de la fragilité des choses, de la vulnérabilité. Et j'avais envie de raconter cela aussi à travers ces destins qui s'entrecroisent, puisque tous ces personnages vont subir une épreuve particulière et se poser aussi la question du curseur, où est-ce qu'on place le curseur de la douleur? Pour certains des personnages, comme c'est le cas, vous parlez de l'ex-femme de François Velli, un divorce va la mener à la mort, elle va préférer se suicider que de subir ce divorce-là. Pour d'autres personnages, et je pense notamment à un des soldats qui revient tétraplégique d'Afghanistan et qui va continuer à vivre et qui va garder cet instinct de vie, ce courage, cette combativité aussi, C'était des éléments qui étaient très intéressants, il me semblait, à décrire dans un roman.
Oui, alors effectivement, vous évoquiez la question de l'épreuve. C'est vrai que moi, en refermant le livre, j'ai eu l'impression que vous aviez finalement écrit un livre sur la blessure. D'ailleurs, votre livre porte la dédicace aux blessés. Évidemment, je pense que c'est une dédicace qui résonne tout particulièrement en ce moment, et notamment en France. Et la question de la blessure se posait à la fois à l'échelle individuelle, de savoir qu'est-ce qu'une blessure, à partir de quand est-ce que finalement on a le droit aussi de revendiquer un statut de blessé ou pas. Et puis, ça parlait aussi des blessures, des plaies qui traversent, on va dire, la société française, qui ont de la peine à se refermer. Certaines se rouvrent parfois à cause d'un petit événement. Et c'était toute la question. D'ailleurs, l'un de vos personnages, peut-être la protagoniste féminine principale, Marion Decker, est l'auteur d'un seul livre qui s'appelle Revenir intact. Et effectivement, que veut dire revenir intact d'une catastrophe? Est-ce que c'est quand ça ne se voit pas?
Pour moi, c'est la grande question de nos sociétés aujourd'hui, en fait. C'est comment on survit dans une société violente, tourmentée. La question de la violence, d'ailleurs, est centrale dans le livre. Je crois que je montre comment la violence de nos sociétés contamine toutes les sphères, y compris la sphère intime. Comment on peut vivre une vie de couple, comment on peut s'investir dans son travail, dans une société dont l'édifice est aussi fragile, parce que c'est l'insouciance raconte aussi les crispations identitaires dans la société, telles qu'on les subit et qu'on les vit aujourd'hui en France, la vulnérabilité, comme je l'ai dit. Et puis, c'est un texte que j'ai écrit en partie pendant l'année 2015, qui est une année, comme vous le savez, qui a été marquée par des attentats. Et c'était une phrase que j'entendais tout le temps au cours de cette année-là, c'est la fin de l'insouciance. Et j'ai pensé qu'il fallait aussi en faire quelque chose du point de vue littéraire de cette vulnérabilité que nous, les écrivains, parce qu'on écrit seul, on est plongé dans ces moments de retrait, hein, social, de grande solitude. C'est difficile de créer dans ces moments-là. Et je crois qu'on ressent dans le livre cette blessure, hein, qui est à la fois cette blessure, comme vous dites, comme vous l'avez dit, cette blessure collective, mais aussi cette blessure personnelle, car on l'est tous, d'une certaine façon, face à l'épreuve, blessés à titre personnel, mais aussi parfois blessés par la souffrance d'autres proches, de ceux que nous aimons. D'ailleurs, dans une des interrogations du livre, et c'est aussi la suivante, quand cette jeune femme, Marion, va vouloir aller plus loin dans cette relation avec cet homme d'affaires, François Vély, et que l'ex-femme va se suicider, ça sera impossible pour elle de continuer cette relation de manière apaisée. Et l'une des questions qui m'ont guidée au cours de l'écriture de ce livre était la suivante, c'était peut-on construire son propre bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre? Et ça, on voit que c'est une question qui est lancinante dans le texte, et peut-on aussi se reconstruire après un drame qui a touché un de vos proches? Et là, c'est le cas de Romain Roller, qui voit son meilleur ami revenir tétraplégique et perdre certains de ses hommes au cours d'une mission particulièrement périlleuse. Et on en revient à la question de la culpabilité que vous abordiez. Ces personnages se sentent effectivement tous coupables, coupables de la mort d'un proche. Donc c'est aussi la question de la responsabilité de nos actes et de nos choix.
Oui, il y a cette scène d'ailleurs, sans trop en révéler, on peut peut-être juste dire ça. Il y a cette scène très belle, enfin, que moi j'ai trouvée très très belle, où Romain Roller rend visite à l'un de ses hommes qui est hospitalisé, et où l'homme en question lui dit, mais en gros, lui fait comprendre qu'il y a certaines choses que lui ne peut pas comprendre, puisque lui est valide et entier. Et on voit bien, parce que vous donnez à entendre le monologue intérieur de Romain Roller, il ne s'identifie pas du tout avec cette description valide et entier. Parce que pour lui, évidemment, être intact physiquement ne veut absolument pas dire qu'il est revenu valide et entier.
Oui, lui, c'est Romain Roller, il est revenu détruit de cette mission. Hein, donc, il souffre vraiment d'un syndrome de stress post-traumatique et se pose alors la question du retour à la vie réelle hein, pour ces hommes qui ont subi un traumatisme, c'est-à-dire comment retrouver sa place sociale, mais aussi comment retrouver sa place au sein de sa famille. Et lui n'arrive plus à communiquer avec sa femme. D'autant qu'au début du livre, il a une liaison avec donc cette jeune romancière et journaliste, Marion Decker, au cours d'un sas de fin de mission. On appelle aussi sas de décompression. C'est-à-dire que pendant 3 jours, les soldats qui reviennent de mission se ressourcent dans un hôtel 5 étoiles à Paphos. Ils font du sport, ils rencontrent des psychologues avant le retour à la vie réelle. Et c'est au cours de ce sas qu'il va avoir cette liaison avec cette femme. Et je pense que très vite, un peu comme un instinct de survie, hein, il va comprendre que l'espace de l'intimité, l'espace de la sexualité seront les seuls espaces de la reconstruction possible. Hein, parce que c'est un livre qui, bien sûr, aborde la question de l'épreuve, mais qui aborde aussi la question des ressources et des moyens que nous avons dans la vie pour faire face, pour continuer à vivre. Et parmi ces ressources, il y a bien sûr la question du désir. L'insouciance, c'est aussi des histoires d'amour croisé, des histoires de désir, des histoires de conquête. D'ailleurs, il y a bien sûr 3 personnages principaux, mais c'est aussi des histoires de couple, en fait, parce qu'on voit évoluer différents couples. À chaque personnage, il y a une présence féminine qui, pour moi, même si parfois ce sont des personnages qui apparaissent comme secondaires, sont déterminants, puisque les personnages principaux n'existent qu'à travers le regard et la présence forte de ces autres personnages.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on aura le temps de parler un tout petit peu des rapports hommes-femmes qui sont quand même très, très intéressants dans votre roman. Mais je me demandais sur cette question finalement de la guerre et de l'épreuve. Alors évidemment, vous parliez de la force du désir, on pourrait peut-être dire avec des mots un peu ronflants aujourd'hui que finalement c'est la très vieille question d'Eros et de Thanatos. Effectivement, on a l'impression que tous ces personnages dans la vie très dure qu'ils mènent à différents niveaux sont comme un peu happés par une espèce de pulsion de mort. Et puis, effectivement, il y a tout d'un coup quelque chose qui ressuscite du désir, qui est souvent d'ailleurs d'abord du désir amoureux, du désir sexuel pour une femme, et qui va venir entraîner ensuite un désir de vie.
Oui, dans le cas des soldats que j'ai pu rencontrer, tous me racontaient ce rapport à la mort, c'est-à-dire cette rencontre avec la mort à laquelle on n'est jamais préparé. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un passage et les premiers mots, c'est « personne n'est préparé à ça ». En fait, personne n'est préparé à cette rencontre avec la mort. Et il y a très vite chez chacun le désir de renouer avec l'instinct de vie. C'est des hommes qui partent en mission pendant 6 mois. Et évidemment, le retour à la vie réelle implique aussi le retour à l'intime. Hein, et là, très vite, hein, donc dès le sas de fin de mission, c'est cette sorte de pulsion de vie, puisque aucun des deux protagonistes, que ce soit Marion ou lui, n'avait particulièrement envie de s'engager dans une relation, une liaison cachée. Et on voit très vite qu'ils sont comme submergés par cet instinct de vie, par ce désir qui va à la fois détruire leur vie et aussi leur permettre de se reconstruire à titre personnel. Là aussi, il y a cette idée tout au long du roman des choix que l'on fait, c'est-à-dire détruire, construire. Et je crois qu'à tout moment dans une vie, on est amené à faire ces choix décisifs qui vont orienter nos destinées vers telle ou telle voie.
Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que vous avez toute une réflexion aussi autour. C'est pas, il n'y a pas juste, disons, comment dire, l'amour d'un côté et de l'autre côté quelque chose qui, enfin, des couples qui seraient juste terminés. Il y a une grande réflexion sur la question aussi de l'engagement et de la tendresse qu'on peut avoir au sein d'un couple. Je pense alors effectivement notamment à Romain Roller qui revient. Sa femme l'a attendu pendant des mois de manière tout à fait héroïque et aimante. Et il revient et effectivement il se rend compte que bon, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, comme si reconstruire sur quelque chose du passé, ce serait renouer avec un homme finalement qu'il n'est plus. Et en même temps, il n'a pas complètement cessé d'aimer cette femme. C'est juste que c'est plus le même type d'amour que ce qui l'attire vers cette jeune
Oui, lui est
journaliste.
un autre homme. Il a été transformé par ce qu'il a vécu. Et elle est la même femme. Elle l'attend avec le même désir, la même impatience. Et il y a d'emblée une impossibilité pour eux à communiquer. Et puis il y a aussi cette grande question de la violence qui contamine tous les rapports. On est dans une société où les rapports sont devenus de plus en plus. Sont empreints d'une très grande brutalité, hein, sont devenus de plus en plus violents. Et cette violence, elle a aussi une répercussion dans la sphère intime. C'est-à-dire que. Très vite, à son retour, il y a à la fois bien sûr cet attachement, et puis dans un premier temps, il croit, à tort d'ailleurs, comme vous l'avez dit, qu'il va pouvoir se séparer très vite de sa femme, qu'il va pouvoir refaire sa vie, et il va comprendre effectivement que c'est beaucoup plus complexe que cela, que c'est beaucoup plus difficile que cela de renoncer à la vie qu'il avait, de renoncer à la vie avec son fils, de recommencer. Une nouvelle vie ailleurs, y compris pour Marion, hein, puisque cette rencontre avec l'homme qu'elle va finalement épouser aura causé d'une certaine façon la mort de l'ex-femme. Donc oui, c'est aussi un livre qui aborde cette question-là, des choix qu'on fait et des conséquences que ces choix peuvent avoir non seulement sur nos vies, mais aussi sur les vies d'autrui, et puis cette grande question aussi de l'évolution de chacun au cours d'une vie. Et comme vous l'avez très justement dit, Romain revient totalement métamorphosé, lui, de la guerre, du conflit, de ce qu'il a vu. Et ça, c'est quelque chose que l'on m'a souvent raconté. L'idée que. Et c'est d'ailleurs étrange parce que moi, les soldats que j'ai rencontrés m'ont parlé très librement, alors qu'ils ne me connaissaient pas, mais je savais qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés à raconter à leurs proches ce qu'ils avaient vécu, parce que surtout ceux qui n'avaient pas été blessés, parce qu'ils ne portaient pas de blessures visibles, donc on considérait qu'ils étaient revenus intacts.
J'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur la question des choix et ce que parfois des choix, enfin, que parfois certains choix, même infimes, pouvaient avoir de grandes conséquences. Là aussi, sans trop entrer dans les détails, il y a effectivement à un moment donné le personnage de François Velly qui va, pour justement un portrait pour la presse, choisir de poser d'une certaine manière pour la photographie qui accompagne le portrait. Et c'est un peu cette photographie qui va entraîner ensuite tout un tas de bouleversements qui vont amener jusqu'à la fin du livre. Je trouvais ça intéressant, finalement, dans cette société de l'apparence que vous décrivez très très bien, que ce soit justement une image qui puisse enclencher une descente aux enfers.
Aujourd'hui, on peut tomber à cause d'une image diffusée sur les réseaux sociaux. On l'a vu encore récemment avec cet homme politique américain, Anthony Weiner, pour ceux qui ont vu un documentaire qui est encore accessible aujourd'hui en replay et qui est très intéressant. Et cet homme avait tweeté, donc avait mis sur Twitter, sur le réseau social Twitter, une photo de lui en caleçon par erreur, en pensant l'envoyer en message privé, et sa carrière a été totalement ruinée. Donc une image peut vous faire tomber quand vous êtes impuissant, un tweet malencontreux peut aussi faire tomber quelqu'un d'influent. Donc ces nouveaux outils de communication et ce rapport aussi à l'image qui est devenu de plus en plus important dans notre société sont des ressorts romanesques très forts. Et là encore, je pensais que c'était intéressant de raconter la chute d'un homme à cause d'une photo. Et ça, c'était inspiré d'une véritable histoire, puisque c'était la femme du milliardaire Roman Abramovitch qui avait posé sur cette sculpture. Et alors, c'était un scandale qui n'avait pas pris une très grande ampleur parce que c'était dans un magazine assez confidentiel d'art contemporain, mais ça m'avait beaucoup marqué puisque voilà, il y avait eu quand même des conséquences, des attaques et je crois qu'effectivement quand on est un homme ou une femme de pouvoir aujourd'hui, on est obligé de faire très attention aux mots qu'on emploie parce qu'ils sont repris sur les réseaux, aux images aussi qui peuvent être prises de vous hein, à votre insu avec les téléphones portables. La société a vraiment changé sur cette question du rapport à l'image, y compris pour les personnalités et encore une fois, c'est pour moi un ressort qui était très très intéressant du point de vue du roman.
Oui, d'ailleurs, on n'a pas l'impression, parce que là, on pourrait peut-être donner cette impression-là au public, en tout cas dans mes propos. Il ne me semble pas que l'idée de votre roman, c'est de dénoncer absolument et complètement le rapport aux réseaux sociaux, le rapport à la presse, à l'image. C'est plutôt de montrer que, ben, comme tout pouvoir, et la presse évidemment en est un, de manière élargie aux réseaux sociaux, ben de montrer comment ça informe effectivement la société, enfin ça informe aux différents sens du terme.
La société a changé, il y a des nouveaux outils de communication et là encore, c'est pour moi intéressant de raconter aussi ces évolutions-là. Effectivement, pas du tout pour porter un jugement quelconque, parce que je considère que un roman n'a pas de message en fait. C'est à chaque lecteur d'avoir sa propre interprétation, sa propre lecture en fonction de son histoire personnelle, de ses attentes, de ses opinions aussi, hein. Mais l'idée de la chute comme ça d'un homme qui avait tout hein, à cause d'une maladresse, d'une erreur de communication était là aussi un ressort intéressant parce que c'est vrai que c'est le cœur du livre, c'est l'un des éléments les plus importants du livre et à partir de cet événement, toutes les vies des personnages vont à la fois s'entrecroiser et aussi littéralement explosé en fait.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça part en vrille à partir de ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de, on va dire, de la maladresse et du pouvoir de l'image, ce moment-là de l'histoire révèle aussi, c'est quand même une certaine, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, notamment récemment autour du prix d'un produit qu'on peut acheter en boulangerie. La question de la déconnexion de certaines élites par rapport à la réalité. Et c'est vrai que vous montrez très bien comment François Vély s'entoure d'art contemporain, un peu parce que ça se fait, et puis parce que finalement il trouve ça beau, mais d'une manière où il n'y a pas de recherche de sens ou de message par rapport à l'œuvre d'art. C'est plus, ça devient presque un élément purement décoratif. Et donc il ne peut pas à aucun moment s'imaginer que cette photo puisse choquer finalement.
Bah, c'est aussi, ce livre raconte aussi le fonctionnement des élites françaises et la façon dont tous ces univers se côtoient, essentiellement effectivement par le biais du milieu politique que je décris par la voix des conseillers et le milieu du grand patronat. Donc l'une des premières scènes du livre, c'est un dîner au siècle, qui est donc ce cercle d'influence à Paris où les personnes les plus influentes en France se retrouvent. Ça aussi, c'était intéressant de confronter les univers. Moi, j'aime beaucoup créer du contraste dans un roman, c'est-à-dire à la fois passer d'un univers bourgeois, feutré, influent, à un univers beaucoup plus défavorisé. Mais là encore, il s'agit plutôt de montrer, de dévoiler, et non pas de porter un quelconque jugement. François Vély, qui est un grand amateur d'art contemporain, lui considère que l'art, finalement, toute cette réflexion sur l'intérêt de l'art, le caractère subversif de l'art, lui importe peu. Pour lui, l'art est libre et une sculpture est une sculpture. Il ne voit pas la portée politique à ce moment-là, précisément au moment de la photo de cette œuvre d'art. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de déconnexion, puisqu'il ne prend pas conscience du ressenti d'autrui, de la souffrance d'autres personnes qui verront cette image. Et c'est vrai que c'est quand même aussi une question que pose le livre, hein, puisque les élites politiques que je décris vivent. Donc le monde des conseillers vit dans un certain cercle et ne peut pas en sortir, puisque c'est beaucoup de travail en cabinet ministériel, vous avez peu de temps pour aller sur le terrain. Il y a des rivalités en plus internes, parce que Ousmane Dibula, le conseiller que je décris, vient d'une cité sensible en banlieue. C'est un ancien éducateur social qui est devenu une personnalité politique montante au lendemain des émeutes de 2005. Et quand il arrive au sein de l'équipe des conseillers, lui en tant que conseiller à la jeunesse, il est tout de suite décrié, critiqué. On remet en cause sans cesse sa légitimité parce qu'il n'est pas normalien, parce qu'il n'est pas énarque, parce qu'il n'est pas le fruit d'une certaine intelligentsia française. Et donc, c'est vrai que le livre raconte aussi le fonctionnement des élites en France.
Alors, justement, ce qui est frappant, c'est que vous disiez que vous aimiez bien justement montrer un peu différents groupes, différentes catégories, différentes classes de personnes ou de différentes classes sociétales. Et je trouve que votre livre pose bien la question de la porosité de ces catégories. Est-ce que finalement il y a une possibilité de se mouvoir de passer d'un groupe à l'autre ou pas? Ou est-ce que ces catégories finalement sont étanches? Est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve fixé soit par son parcours, soit par ses origines, soit par l'éducation qu'on a pu avoir, à laquelle on a pu accéder? Est-ce qu'on se retrouve immobilisé par ça, ou est-ce qu'il y a justement une porosité possible?
C'est toute l'ambiguïté et l'ambiguïté du livre. C'est-à-dire qu'à la fois, Haussmann va bénéficier d'une ascension fulgurante, parce qu'il s'est fait remarquer au lendemain des émeutes de 2005. Donc certains diront qu'il en a tiré profit de son engagement. Mais après, on va sans cesse le renvoyer à la question identitaire, à la question de ses origines sociales. On va lui dire qu'il a eu ce poste grâce à la discrimination positive. On va lui dire qu'il est la caution noire du gouvernement. Donc il va subir quand même des attaques racistes. Et puis, jusqu'à son éviction, hein, au début du livre, du pouvoir et les difficiles reconquêtes. Alors, c'est vrai que le livre, comme mes précédents, d'ailleurs, comme le précédent, en tout cas, L'invention de nos vies, pose la question du déterminisme dans nos sociétés. Est-ce qu'on est condamné à être figé par ses origines sociales, ou est-ce qu'on a une capacité, une possibilité de se réinventer dans nos sociétés? Moi, je crois qu'on a créer une vie par le travail, comme c'est le cas d'ailleurs de mon personnage, hein, qui va tenter par ses idées, par son énergie, par son travail de s'imposer. Mais force est de constater qu'il y a toujours un moment où vous êtes limité, empêché, parce que vous n'avez pas les bons codes, parce que vous ne connaissez pas les bonnes personnes, vous n'avez pas un réseau d'influence suffisant. Et le livre aborde aussi cette question-là, des réseaux d'influence et comment on parvient ou pas à les conquérir dans une société qui est devenue de plus en plus compétitive. Le livre n'apporte pas de réponse. Je crois que c'est chacun, en fonction de son histoire personnelle, qui peut répondre. C'est vrai que dans le domaine politique, la notoriété, la popularité sont des éléments très importants dans une carrière. À partir du moment où vous êtes populaire, où les gens vous aiment, où vous êtes médiatique, vous êtes porté d'une certaine façon et vous trouvez plus facilement votre place dans le système politique que si... vous ne faites pas partie d'un certain cénacle. On le voit bien là même avec Emmanuel Macron, qui est d'une certaine façon porté, mais jusqu'à quand? Voilà, c'est toujours la grande question, c'est jusqu'à quand une personnalité politique est portée par l'opinion, par les médias. Le livre aborde aussi ces questions-là à travers la trajectoire d'Ousmane Dibula.
Oui, d'autant plus que cette question du déterminisme, il me semble que vous la faites jouer avec celle de la communauté, du communautarisme, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on voit bien le danger auquel sont confrontés certains personnages de, de glisser en fait, de vouloir appartenir à un groupe, alors là en l'occurrence souvent religieux, et de glisser du coup dans le communautarisme. Il y a une scène dans le livre, j'avoue que je ne sais plus exactement où elle figure, mais où il vous opposez, je crois, en tout cas un des personnages oppose la communauté à la fraternité. De dire que finalement il est dommage que la fraternité souvent glisse dans le communautarisme alors qu'elle pourrait rester fraternité.
Je ne sais pas si c'est parce
Je
que
vais
enfin
voir si je peux
voilà
retrouver le
parce que c'est vrai
passage.
que l'idée c'est que les personnages sont souvent renvoyés à leur identité et trouvent dans la communauté une certaine fraternité. Et je pense notamment en fait on n'en a pas parlé mais c'est un élément qui est important du livre, c'est que François Vély, le grand patron que je décris, s'appelle en réalité Lévy. Son père était un résistant, un ancien ministre de la République, qui après la guerre a changé son nom en fait par souci d'intégration et pour oublier aussi sa judéité. Et il est renvoyé, et son fils est renvoyé des années plus tard, alors qu'il a été élevé dans le catholicisme, à cette judéité qu'il n'assume pas du tout. Il y est renvoyé de deux façons, donc par des attaques antisémites et par le retour au religieux et donc le retour à la communauté d'un de ses fils, qui trouve au contraire dans la religion, dans ce rapport au texte, dans ce rapport à l'autre. La sérénité qu'il a perdue à la mort de sa mère.
J'ai retrouvé le passage, en fait, c'est parce que ça ne concernait pas la question de la religion. C'est Romain Roller, à la fin, enfin, dans la dernière partie du livre, qui, après l'Afghanistan, va retourner sur le terrain parce qu'il a l'impression qu'il ne peut rien faire d'autre que de retourner sur le terrain. Mais il va y retourner en devenant agent de sécurité privée. Et il décrit à un moment donné comment la fraternité qu'il pouvait ressentir
Ah oui,
face,
à
enfin,
l'armée, à l'armée.
voilà,
Oui,
vis-à-vis de
à
ses
l'armée.
frères d'armes, tout
Oui.
d'un coup devenait uniquement une communauté d'intérêts.
Oui, parce que
Voilà.
les soldats engagés dans l'armée, il y a vraiment une très très forte fraternité, esprit d'entraide pour sauver un camarade, ils sont prêts à donner leur vie. Là, dans le cas des agents de sécurité, ils deviennent des personnes juste mues par l'appât du gain. On fait ça pour l'argent, en fait. Hein, donc, les valeurs changent, c'est une inversion effectivement de leurs valeurs.
Il y avait deux questions encore que j'avais envie de vous poser. C'était d'une manière, on va dire, un peu générale, le rapport que ce livre-là pouvait entretenir avec la littérature, parce que de manière très fine, on a l'impression que la littérature est distillée comme ça le long du livre. Vous citez plusieurs ouvrages. On a l'impression que la littérature peut avoir un pouvoir consolateur, notamment à la toute fin du livre pour le personnage de Marion. Et je me demandais tout simplement dans votre travail comment vous utilisiez, comment vous travailliez avec les livres de votre bibliothèque mentale.
Je vais vous faire une réponse très simple. La littérature, c'est toute ma vie. Je crois qu'on est le produit, en tout cas moi, je suis le produit de mes lectures, lectures qui m'ont souvent été conseillées par ma mère quand j'étais enfant et adolescente. Donc les livres font partie de ma vie. Donc dans certains moments de ma vie, ils m'aident à rester combative, ils me consolent, ils me construisent, ils me réparent, ils me font rire. Et chaque auteur a eu une influence déterminante dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma carrière d'écrivain. J'ai une grande aussi curiosité pour ce qui se fait ailleurs, hein, pour d'autres écrivains contemporains. Et puis, il y a le rapport à la langue aussi, qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire réfléchir à la forme qu'on va donner à un texte. Un texte, ce n'est pas seulement une histoire à raconter, c'est aussi un univers, une langue, des mots choisis, une ponctuation particulière qui va donner un rythme singulier à votre livre. Et tout ça sont des éléments déterminants pour moi dans le travail, ce rapport aux mots. J'aime la langue française, j'aime la littérature, je, Voilà, pour moi, c'est presque aussi un combat de continuer à parler des livres, à donner aux gens envie de lire, à communiquer cette passion pour les mots. Et, voilà. Donc c'est... et elle apparaît, elle transparaît, elle apparaît bien sûr à plusieurs chapitres du livre, cette passion des mots, à la fois, je cite des auteurs que j'aime, mais, et puis c'est, la voix, c'est à travers la voix du personnage, en fait, du père de François Véli, qui s'appelle Paul Véli, qui est une sorte de sage dans le livre et qui est cet amoureux des livres, qui a toujours un bon livre à conseiller, un bon mot à faire dans les moments douloureux de l'existence. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, alors je ne sais pas comment après les gens agissent dans leur vie, mais moi, revoir un entretien d'un auteur dont j'aime le travail, par exemple, dans mon précédent livre, j'avais cité des paroles de Marguerite Yourcenar dans un entretien avec Bernard Pivot. J'avais eu beaucoup de plaisir à relire, à revoir ces entretiens, et elle parlait du rapport à l'ambition littéraire, du rapport à la notoriété. Tous ces entretiens d'écrivains, tous ces textes m'aident à vivre.
Vous disiez qu'un roman n'avait pas forcément de message, puisque c'était au lecteur à dégager le message qu'il pouvait et voulait entendre dans le livre. Mais on a, en tout cas là, à vous entendre, on a quand même l'impression qu'en tout cas par rapport à la littérature, votre rapport est très engagé, même si vous n'avez pas un message fixe évidemment à transmettre, mais il y a un engagement au sens fort du terme, en tout cas vis-à-vis des ouvertures que devrait permettre la littérature.
Oui, ce n'est pas un engagement politique, parce qu'encore une fois, mes livres, je crois, ne trahissent pas mes convictions profondes. Mais c'est un engagement pour le pluralisme et le débat d'idées. Parce que je pense qu'c'est aujourd'hui devenu difficile dans le contexte actuel. Et encore une fois, le roman permet cela. Le roman, ce n'est pas le lieu du politiquement correct. On doit pouvoir aborder tous les sujets à travers les voix des personnages. Et puis, j'aime, encore une fois, mes livres sont nourris de rencontres avec des gens. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes romancier, les gens vous parlent. Je ne suis pas journaliste. Donc, par exemple, pour aborder la question de la condition noire en France, j'ai rencontré des personnes, certaines que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, donc que j'avais repérées, dont j'avais repéré l'engagement, par exemple, sur les réseaux sociaux et que j'ai contacté. Et je leur ai dit les choses franchement. Je leur ai dit quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées dans votre exercice professionnel, dans votre vie de tous les jours, en tant que noire. Est-ce que vous avez des anecdotes? Et les gens parlent. Et cette parole, elle a un sens dans un roman, parce que je ne sais pas si ces gens-là, on veut les entendre dans la société, parce que c'est un discours qui peut gêner, qui peut déranger, qui peut fracturer la cohésion sociale. Alors qu'au contraire, moi, je crois qu'il n'y a rien de plus salutaire que le débat, que l'engagement. Et à travers la voix de tous les personnages, d'ailleurs, le rapport à la famille, le rapport à la filiation, le rapport aux origines. Et pour moi, ce sont des. Au contraire, il faut pas museler les gens. Il faut les laisser parler. Et peut-être que le roman est le lieu où la parole peut encore être libre.
C'est vrai que paradoxalement, on a beaucoup dit que justement, Internet, les réseaux sociaux. Permettait aux gens de se faire mieux entendre, mais ils se font peut-être plus entendre, mais est-ce qu'ils se font mieux entendre, c'est peut-être plus compliqué.
Je crois qu'ils ne se font pas plus entendre ni mieux entendre, parce qu'en réalité, ces outils sont utilisés par des politiques à des fins de communication, uniquement, c'est tout. Donc, ils n'y viennent pas, ils n'ont pas le temps, et ils n'y viennent pas pour essayer de prendre le pouls de la société. En tout cas, je ne le crois pas, parce que sinon les propositions seraient sans doute différentes et on aurait aussi des forces politiques émergentes, ce qui n'est pas le cas. Donc non, je crois que malheureusement, c'est pas le cas dans la société d'aujourd'hui.
Je disais ça surtout dans l'idée de dire que finalement la littérature aujourd'hui permettait aussi d'incarner ces voix-là et de pas en rester justement à à des prises de parole qui se perdraient dans la masse, qui seraient anonymisées. Et peut-être que c'est la force du roman. Et quand je dis du roman, je parle vraiment de la fiction, là, de pouvoir créer des personnages qui sont capables de porter ces voix-là sans évidemment les représenter exactement, puisque ça peut jamais être le cas, mais au moins de donner une force d'incarnation à ces voix.
Moi, je crois que ça existait avant avec des écrivains comme Camus, comme
Bien sûr.
Malraux, comme Sartre. Après, il y a eu ces dernières années, il y a eu ce phénomène de l'autofiction avec ces récits beaucoup plus intimistes où les écrivains racontaient leur vie ou des éléments de leur vie en les romançant ou non. Et là, on assiste quand même à un retour aujourd'hui du réel. Il y a même eu des débats sur cette question-là. Est-ce que le roman est mort? Certains écrivains, et là je reviens sur Emmanuel Carrère, ont renoncé définitivement à la fiction pour faire plutôt du documentaire, des récits. Et c'est passionnant parce que c'est des livres qui racontent la société. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'intéresse, même si j'adore la fiction et je ne peux pas renoncer encore aujourd'hui. À la fiction parce qu'il y a cet imaginaire aussi qui nous porte, il y a cette possibilité et cette liberté d'orienter les trajectoires de vos personnages vers tel ou tel destin. J'aime pas l'idée d'être enfermée non plus par le réel, d'avoir une sorte d'obligation de vérité absolue. Pour le moment, je n'ai pas dépassé cette limite.
Ça me paraît pas du tout une limite. On va en rester là. Vous remercier surtout,
Merci
Karine
à vous.
Thuil, d'être venue nous présenter votre roman. Et merci à la librairie Mola.
Merci à vous.